Cube Radio doit acquérir des matériels. De toute urgence. Soutiens-nous avec la cagnotte solidaire. www.libradio.org. Pour un don ou pour faire passer. Merci d'avance.
Alors bonjour, nous sommes ici à la place de la navigation au Paquis, à l'occasion des dons de produits d'hygiène à destination des femmes précaires de FAB. FAB, ça désigne femme à bord. Et nous sommes en compagnie de deux personnes.
Bonjour, je m'appelle Luna. Mon pronom c'est elle et voilà, je suis collégienne.
Et bonjour, moi c'est Morgane, du coup pronom Yel. Et je suis aussi collégienne en quatrième année. En OS physique maths.
Nous parlons du voyage, de votre voyage. Alors le choix de partir jusqu'à Amsterdam, c'était votre destination et de le faire en autostop. Alors l'autostop, c'est tout de même une aventure. Pour vous, ça c'était sans danger ou est-ce que quand même, en préparant ce parcours, vous avez dit, bon voilà, il se peut qu'on affronte des choses délicates.
Alors on avait déjà fait un tout petit peu d'autostop lors d'un précédent voyage en Italie. Donc on descendait des Cinque Terre en direction de Rome.
C'est beau.
Et du coup, on avait fait un tout petit peu d'autostop. Et là, déjà, on avait déjà décidé de suivre vraiment notre intuition. Dès qu'on le sentait pas trop, de se dire entre nous, on était trois à ce moment-là. Puis du coup, c'est vrai qu'on a gardé le même schéma, en fait, pour ce voyage-là à Amsterdam. On s'est dit, bon, on suit notre intuition. On est sûr de nous-mêmes. Moi, c'est vrai que j'avais de la 3G sur place. Donc, je pouvais vérifier, en fait, les itinéraires, etc., où Luna pouvait le faire. Et du coup, on était plus... on checkait quand même où on allait et tout ça.
Oui, je pense que le fait qu'on ait de la 3G a changé quand même beaucoup de choses. Si on peut raconter une petite mésaventure qu'on a eue. Après, il ne faut pas paniquer. Enfin, justement, c'est sur le moment où il faut réagir, il faut garder son calme. Et ce qu'on a aussi pu remarquer, c'est que les événements, ils s'enchaînent petit à petit et que la tension, elle monte petit à petit. Donc, il y a le temps de réagir. Ça ne vient pas comme ça, ça ne nous tombe pas dessus. Donc là, ce qui s'était passé, c'est un homme d'une soixantaine d'années peut-être qui nous avait pris.
Ouais, une cinquantaine d'années. Il nous avait pris très très gentiment, il était hyper gentil au début. Puis c'est vrai que petit à petit, il nous a des remarques. Ah, c'est vrai que vous êtes deux belles filles, etc. Vous faites attention à vous, etc. À un moment, il m'a demandé de... Enfin, moi, j'étais à l'avant de la voiture et Luna était à l'arrière. Et il m'a demandé de prendre son numéro au cas où il nous arriverait quelque chose, etc. Enfin, c'était un peu de plus en plus étrange. Et c'est vrai que du coup, tout de suite, moi, j'avais mon téléphone dans la main. Et on a été direct en lui disant non, posez-nous ici. Je lui montrais très bien que je savais où j'étais. Je pouvais pas m'avoir en quelque sorte. Et c'est vrai que toi, depuis derrière, t'entendais moins, tu m'avais dit. Et du coup, bon, j'ai réussi à juste, enfin, il nous a posé là où il était censé nous poser. Puis voilà, puis on est sorti de la voiture et vite fait, bien fait. Au revoir, merci. Okay. Et puis voilà.
Ouais. Oui, effectivement, le fait qu'on soit deux, Morgane a pu réagir beaucoup plus rapidement que moi parce que j'étais derrière et je faisais pas forcément attention à ce qui se passait. Voilà, justement. Donc, un conseil peut-être se mettre devant pour avoir vraiment le contrôle de ce qui se passe et d'avoir une vision globale.
C'est ça. Ouais, mais... se mettre devant ou bien avoir de la 3G, savoir où on est. Ça, c'est très très important parce qu'un automobiliste peut très vite, ou une automobiliste peut très vite dévier de l'autoroute ou nous emmener quelque part qu'on ne connaît pas, c'est des pays qu'on ne connaît pas. Et sinon, avoir du spray au poivre, peut-être c'est plus judicieux que des armes qui peuvent aussi se retourner contre nous et ou nous faire du mal. Et voilà, mais sinon, sincèrement, cette mésaventure-là sur les deux jours de voyage, elle représente dans la globalité du voyage même et de son sens et de tout ce qu'on a pu découvrir, je pense, maximum 5-7%, voire 10% vraiment pour les anxieux de ce qui nous est arrivé. Mais je pense, ouais.
Alors après, on va revenir sur le reste du voyage qui s'est plutôt bien passé.
Oui.
Mais le fait de voyager en tandem, ça c'était également un calcul de votre part, une stratégie de votre part de vous dire vaut mieux voyager à deux que esseler clairement. Et premier volet de la question. Deuxième volet, c'est est-ce la destination d'Amsterdam choisie également à dessein ou est-ce que là c'était tout à fait dans l'idée d'aller à Amsterdam parce que c'était une envie qui ne dépendait pas de facteurs de stratégie par exemple.
Alors Amsterdam, c'était juste un ami qui habitait là-bas qui nous a invités pour Nouvel An, donc on s'est dit pourquoi pas, et en même temps faire le trajet en stop, on avait le temps et l'envie de le faire. Voilà, et ensuite pour la... Oui, donc c'était une stratégie d'y aller à deux. On a chacun notre point fort et nos points faibles. Morgane, je te laisse dire ce que toi tu préfères faire.
C'est vrai que par rapport à ça, en fait, on était tout un groupe de 14 personnes à aller à Amsterdam. Et parmi ces 14 personnes, 6 d'entre nous allaient en stop, donc des groupes de deux, des binômes. Et du coup, on s'est vus au préalable entre nous six. De base, on était sept. Pour voir un peu les affinités, ce que chacun avait besoin. Par exemple, certaines personnes, moi, j'étais très anxieux à l'idée de faire ce voyage avant. Mais je savais qu'une fois, dedans, je pourrais... Enfin, j'irais au bout des choses, etc. Et c'est vrai que d'autres personnes, par exemple, ont besoin de quelqu'un qui arrive à parler dans la voiture, à être à l'aise avec des gens inconnus. Et tout ça, en fait, on a vu, on a listé, on a écouté les besoins de chacun. Puis du coup, on s'est retrouvés ensemble. Puis c'est vrai qu'on avait déjà fait un voyage ensemble. Du coup, moi, ça m'aidait, en fait, à me rassurer. Et c'était ça dont j'avais besoin, en fait, de quelqu'un auquel je puisse un peu... sur lequel je puisse un peu reposer mes épaules, que je connaisse un petit peu mieux. Et du coup, c'est vrai que c'était agréable.
Et puis j'imagine que pour les moments, les plages de repos, éventuellement même la petite sieste, d'être deux permet qu'il y ait une veille continue.
Moi, je dirais mon point fort, c'est plus sur le moment de trouver la voiture. Je vais être plus persévérante. Et Morgane, elle va plus prendre le relais dans la voiture pour parler, entretenir la discussion. Et moi, ça me fatigue plus de faire ces...
Vérifier où on va et s'intéresser, en fait, et juste vérifier que tout va bien une fois qu'on est à l'intérieur. C'est vrai que j'ai une tendance un peu à me décourager, moi, selon les moods un peu où on est. Ça fait 15 minutes qu'on est dans le noir avec un petit panneau, qu'il n'y a pas de voiture. C'est vrai que je vais me décourager plus vite. Puis Luna est toujours là, non, allez, on y va. Et c'est vrai que cette tchatch-là, si on peut dire, elle nous a vraiment aidés. En fait, on a fait Amsterdam en 2 jours en hiver, alors que notre ami nous avait dit que d'autres amis à lui qui avaient fait ça l'avaient fait en 3-4 jours et durant l'été, donc là où il y a plus de lumière, là où les jours sont plus longs, etc. Et les gens généralement peut-être plus enclins à j'irai en été qu'en hiver. Et du coup, c'est vrai que cet état d'esprit-là de toujours garder la pêche, on continue, on désespère pas, on choisit la qualité au lieu de la quantité, et d'autres petites méthodes, en fait, qu'on a pu mettre en place, ça a vraiment, vraiment aidé.
Les mots-clés sont-ils, par exemple, la persévérance, la patience, quoi d'autre ?
La qualité sur la quantité. Mmh. Donc, choisir... Si par exemple il y a plusieurs chemins d'autoroute qui vont dans différentes directions et un autre où il n'y a qu'une seule direction dans laquelle on aimerait aller, même s'il y a moins de voitures, plutôt choisir ce chemin-là.
Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on avait eu un débat. Enfin, on a fait le premier jour, on est arrivé à Luxembourg. On a dormi là. Puis le lendemain matin, c'est vrai que du coup il y avait ce cas de figure là où soit on pouvait aller au parking Bouillon, s'il te plaît. On pouvait. Il y avait des voitures qui allaient en direction de la France, de la Belgique et de la Hollande. Ou bien sinon on allait de l'autre côté de la ville et il y avait que des voitures qui allaient en direction de la Hollande. Et du coup c'est vrai que là on a eu un assez grand débat sur quantité ou bien qualité. Ouais. Et on a choisi la qualité du coup. Et finalement, après 15 minutes c'était bon, on avait une voiture qui nous prenait pendant 4 heures jusqu'à Bruxelles. Bon, c'était en Belgique, mais je crois que c'était dans la direction où on voulait, enfin je sais plus exactement, mais en tout cas ça nous poussait bien comme on voulait et ça c'était.
Vous avez parlé de la saison. Selon vous, la météo, est-ce que ça joue dans votre stratégie et dans ce que vous avez pu constater ? Est-ce que s'il fait froid, s'il pleut, s'il neige, est-ce que ça change la donne selon vous ou pas tant que ça ?
Oui, tout à fait. Donc, sur le moral, bien sûr, ça a un impact grand. Nous, on avait froid. Et des fois, quand il commençait à faire nuit, il y a un peu stress de « Ah, il faut tout de suite avoir une voiture avant qu'il fasse nuit. » Et on a d'autres amis qui ont pris un jour où il pleuvait, et donc la visibilité des voitures aussi, ça joue. Donc elles vont pas forcément prendre des personnes qu'elles voient pas trop, voilà. Et puis je rajouterais aussi que le fait qu'on soit des filles, peut-être d'apparence aussi, féminine en tout cas, joue un rôle. Mmh. Ouais.
La nuit, c'est l'ennemi ou pas ? Comment est-ce que vous gériez ce temps nocturne où habituellement, eh bien, on est plutôt amené à dormir ?
Ouais. Bah nous, c'est vrai que on a écouté le conseil d'une amie. Qui a fait un peu du stop aussi précédemment, qui nous a dit bah moi je voyage de jour. Et du coup on est un peu resté là-dessus, il me semble, sans vraiment se dire pas aller tenter le diable, on n'avait pas de raison de faire autrement. Puis ça rajoutait un peu un challenge de se dire bon on a 8 heures, il faut qu'on fasse tant de kilomètres en 8 heures, challenge et puis voilà. Après, peut-être que je me souviens pas de tout, mais en tout cas...
Bah, oui, je suis tout à fait d'accord. Après, le fait que la nuit, il y a d'autres types de personnes qui roulent. Ouais. Des personnes peut-être qui rentrent de soirée ou comme ça, qui sont pas forcément des personnes avec qui il faudrait voyager pour ce type d'expérience-là. Enfin, voilà, c'est pas forcément des personnes de confiance sur le moment, je dirais, surtout quand ils rentrent de soirée comme ça. Et puis oui, en tout cas, on avait commencé à 6h du matin et on n'a pas été prise jusqu'à 7h30. Donc justement, toute cette période,
soleil se lève,
voilà, où il fait nuit, les personnes ne sont pas très enclines à nous prendre.
Le moral a-t-il été toujours bon, ou est-ce qu'il y a des moments où on se dit bon, là on a fait des mauvais choix, ou est-ce que même entre vous, à un moment donné, il y a des petits heurts qui peuvent surgir?
Alors,
ou est-ce que voilà, on fait bonne figure à mauvais sort à tout moment, en tout moment?
Bah, je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas, mais nous, c'est vrai qu'on avait, depuis notre premier voyage, adopté la technique du Tekmil. Je sais pas si, enfin, j'explique, c'est une technique des révolutionnaires au Rojava, qui en fait à la fin de réunion ou à la fin de journée aussi j'imagine, prennent le temps de se mettre en cercle et chacun dit son ressenti. C'est aussi une autocritique vis-à-vis de la journée, et ça permet en fait de décompresser. Il n'y a pas le droit d'interrompre pour par exemple, si on dit qu'on s'est mal senti vis-à-vis d'une personne en particulier, cette personne-là ne peut pas répondre, doit attendre son tour pour exprimer peut-être son point de vue ou comme ça. Et du coup, nous, on a gardé cette technique-là qu'on avait quand on était en trio. Puis en duo, ça a bien marché aussi, où on a pu bien communiquer. Et je dirais que la clé, vraiment, c'est la communication. Et dès qu'il y avait quelque chose qui allait moins bien, ou un désaccord, ou un coup de stress, on en discutait aussi, essayer de ne pas mettre trop de pression sur l'autre. Et ça, c'est vrai que on essaie au maximum de le communiquer pour ne pas laisser justement cette absence de parole venir gâcher le voyage.
Concernant les matériels, est-ce que vous avez calculé les volumes et les poids et les objets plutôt que d'autres?
Alors, personnellement, je suis plutôt minimaliste et j'ai pris juste un petit sac à dos que j'utilise pour aller en cours. Ça m'a suffi. Voilà, juste quelques habits, de quoi manger pour la première journée. Mais toi, t'avais plus d'affaires.
Ouais. Moi, au contraire, j'avais un peu un sac à dos comme pour aller marcher. Puis c'est vrai que moi, j'avais peur du froid, d'avoir froid ou comme ça. Et du coup, j'ai eu la place de mettre plus de choses. C'était beaucoup plus spacieux et confortable, je dirais. Mais je pense que les éléments essentiels à prendre, c'est comme un Tupperware pour mettre, si on fait du porte-à-porte pour la nourriture ou quoi, pouvoir mettre la nourriture dedans, ou juste pour au départ avoir quelque chose à manger. Et après ça, c'est une technique. Et puis sinon, un petit couteau pour couper les fruits ou comme ça.
Aussi, ce que nous, on n'avait pas pris, c'était des plaques de chocolat, on s'est dit, pour offrir à des gens. Surtout, on est suisse, du coup, il y a un peu le cliché de
contrepartie.
Voilà, exactement. Offrir un carré de chocolat, ça fait toujours plaisir. Donc,
c'est vrai que ça, on n'en avait pas.
Avez-vous tenu un journal de bord, ou un vidéo-journal, ou un blog? Souhaitez-vous archiver, garder quelque chose de cela, et pourquoi pas le mettre à disposition des prochaines et des prochains qui pratiqueraient cet exercice?
C'est vrai que pour ma part, du coup, j'avais un petit journal que j'ai tenu, où j'ai pu archiver un peu ce qui nous arrivait, les personnes qu'on rencontrait, le parcours, les belles rencontres, ou bien, par exemple, à un moment donné, on a été pris par... un super chouette camionneur, vraiment adorable. Il nous a appris plein de choses. Puis il avait des slogans comme ça, comme il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas, ou bien d'autres choses un peu comme ça qui restent en tête. Puis du coup, le fait d'avoir un petit un carnet pour noter tout ça, c'est chouette. Au-delà du téléphone, quand même. Je trouve ça quelque chose de plus sincère. Et après, c'est vrai que moi, à certains moments aussi, j'ai juste enregistré, que ce soit l'ambiance, la route, le silence et des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais pour projet depuis longtemps aussi de pouvoir documenter en fait ce genre d'expérience, ou juste les expériences de la vie, montrer qu'au-delà de la routine, on peut faire des expériences qui nous apportent beaucoup. Et du coup, ce projet-là est tout émergent. Donc, je ne sais pas encore comment je vais le diriger, mais il y a la matière qui est là, donc à voir comment.
Et puis, il y a l'intention qui t'habite, certainement, de faire. Luna, est-ce pareil pour toi?
Alors, sur ce projet-là, sur ce voyage-là, j'ai pas fait grand-chose. Je vais laisser un peu la charge. Après, c'est vrai que si je suis seule, je pense que je ferais soit des photos, soit de la vidéo, soit de l'écriture. Mais personnellement, j'ai besoin de plus de préparation, et c'était juste des vacances que j'avais envie de prendre et de vivre le moment présent.
Évidemment, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aimerais savoir si une anecdote ou deux que vous auriez envie de dire, et puis si, eh bien, vous seriez prête à repartir demain, ou peut-être pas demain, mais un peu plus loin. Et est-ce que vous conseillerez ce mode de déplacement pour les vertus que vous avez énoncées jusqu'à présent?
je laisse commencer.
Alors oui, je le conseillerais tout à fait. Après, à voir avec la personne, la personnalité, les peurs et tout un tas de circonstances et de données. Mais nous, on a pu faire des rencontres vraiment incroyables. On est toujours en contact avec un couple belge, mais qui s'est installé en France. Voilà, exactement. Ils nous ont invités chez eux.
Ouais, à partager du chocolat ou des choses comme ça. C'était un couple qui allait revoir leurs enfants. Vers le Luxembourg, par là-bas. Adorable.
Et peut-être préciser qu'au début, c'était pas forcément enclin à nous prendre. Et petit à petit, en fait, on s'est rencontrés, on a discuté. Et c'était vraiment super sympa. Donc, pas forcément se baser sur les premières apparences. Bon, bien sûr, notre ressentiment était bon. Ils n'avaient pas l'air méchants ou dangereux. Mais un peu peureux, peut-être, à l'idée de nous prendre. Ce qui peut être quand même le cas de plusieurs personnes.
Et alors, prête à repartir sous peu ?
Alors moi, je me sens vraiment prête à repartir aussi vite que possible, en fait. C'est vrai que j'ai fait le choix de ne pas faire d'année sabbatique, du coup, je ne pourrais pas expérimenter ça de manière plus longue, mais cet été, pour sûr, c'est sûr et certain, en fait. Parce que c'est vrai que pour rentrer, on a pris le bus, parce qu'on ne voulait pas aller en avion, puis les trains, c'est compliqué en ce moment. Et du coup, on était trois avec un autre garçon qui lui aussi a fait de l'auto-stop pour venir. Et on était tous les trois en train de se dire, non mais clairement, le stop, c'est bien mieux. Au niveau des rencontres, au niveau de l'expérience de vie, l'expérience humaine, au niveau de aussi ce qu'on apprend par rapport à soi, à être capable de se gérer, ou bien qu'on peut se faire confiance, qu'on peut aller demander aux gens, qu'il faut le sourire, etc. Enfin, toutes ces choses, on apprend tellement en fait avec le stop. Et ouais, je sais pas si tu veux raconter une anecdote.
Ouais, voilà, y aura-t-il une anecdote que vous aurez envie de raconter ? Et si c'est pas le cas, faut pas hésiter à ne pas le faire. Hein. Mais voilà. Et pour vous laisser le temps de réfléchir, je peux vous poser ce qui pourrait être la dernière question. Qu'auriez-vous fait avec le recul ? Que feriez-vous différemment maintenant que vous avez engrangé cette expérience ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont vous, en termes de matériel, en termes d'attitude, en termes de stratégie, est-ce que selon vous, même si vous avez déjà de l'expérience, on l'a dit, y aurait-il quelque chose que fondamentalement vous auriez fait autrement ?
Alors, je pense déjà qu'on partirait un peu plus tard de chez nous. Après, qui sait, peut-être on n'aurait pas été pris si on n'avait pas été là autant tôt. Et peut-être aussi si quelqu'un va travailler comme ça, directement leur demander de nous amener déjà à la douane pour avancer cette petite étape d'entrée dans l'autoroute qui est la plus difficile à mon avis. Voilà.
Et de mon côté, je dirais peut-être plus d'un point de vue personnel, la patience. Vraiment, vraiment se dire que c'est normal d'attendre 15 minutes, 15-20 minutes, parce qu'il y a des gens qui attendent des heures. Puis nous, c'est vrai qu'on a été assez chanceux, chanceuses sur ce coup-là. Puis non, je pense que pour le reste, on a su se dire qu'il fallait garder un état d'esprit positif. On a su se réagir quand ça allait pas. Puis se dire aussi, là, on a peut-être pas fait ça hyper correctement. Enfin, du coup, comment on peut faire la prochaine fois ? Et toujours regarder vers l'avenir, toujours se communiquer. Ce qui, dès que ça va pas, ou dès que ça va un peu moins bien, ou dès qu'il y a quelque chose d'un peu, on n'est pas totalement d'accord, de tout de suite en parler, tout de suite essayer de trouver quelque chose sur lequel on peut être d'accord les deux, en fait.
Je voulais peut-être rajouter d'aller vers les personnes. Ce qui a le plus marché, c'est sur les aires d'autoroute, aller parler aux gens, leur expliquer notre projet. Parce qu'en comparant avec d'autres aventures de nos amis et de nos amis, qui n'allaient pas vers les gens et qui attendaient, c'était beaucoup plus dur pour eux de se faire prendre.
Ouais, et en parlant de se faire prendre, souvent, du coup, le fait d'être avenant comme ça, d'aller vers les autres, ça amène aussi des jolies rencontres. Notamment, la dernière personne qui nous a pris, une maman avec son tout petit enfant. C'était la première fois qu'elle prenait des autostoppeurs ou des stoppeuses. Et c'était juste après la frontière de la Hollande. Et au final, dans la voiture, moi j'ai commencé vraiment à discuter et tout ça. Et elle était censée nous poser à mi-chemin entre la frontière et Amsterdam. Et finalement, en fait, au fil du voyage, au fil de la discussion, il s'est trouvé qu'elle a décidé de nous amener jusqu'à Amsterdam et elle nous avait vraiment déposé devant la porte de la petite péniche dans laquelle on allait dormir. Et ce genre d'anecdote, en fait, je la raconte parce que c'est juste pour dire que finalement, en étant assez ouvert d'esprit Et en essayant, en allant vers les autres, on arrive à faire de belles rencontres et les gens aussi sont plus enclins à nous aider. Et puis c'est vrai que c'est arrivé quand même quelques fois que les gens décident de nous pousser comme ça.
Savoir l'anglais, c'est aussi un outil nécessaire ou une option favorable? Ou c'est pas du tout, ça n'a rien changé pour vous?
Alors, on a souvent parlé en français, vu que la Belgique, voilà, ils parlent français. Et puis en Hollande aussi, c'est quand même assez près. Mais l'anglais, justement pour la communication, qui est un point clé, je pense que c'est quand même essentiel.
Moi, je dirais qu'à partir de la frontière avec la Hollande, les gens ne parlaient pas français.
Ouais.
Et dans les voitures, etc. Et que du coup, vraiment, l'anglais est essentiel. Notamment dans le cas, on l'a dit au tout début de l'interview, où il y a eu cette petite pente glissante avec un des autos, enfin quelqu'un qui nous a pris un stop. Et c'est vrai que cette personne-là, si j'avais pas parlé anglais, ça aurait été beaucoup plus compliqué de comprendre ce qui se passe, de comprendre les remarques, de se dire ok c'est douteux, et de pouvoir répéter nous on voudrait aller là s'il vous plaît, et tout en restant courtois, parce que c'est vrai que moi j'ai pas du tout commencé à dire non, déposez-nous tout de suite, arrêtez. Je rigolais quand même avec la personne, j'allais dans son sens pour pas la braquer, mais je répétais non, ok, déposez-nous là s'il vous plaît, ok, est-ce qu'on va bien en direction, ah d'accord, je vois, il nous reste 5 minutes, en rappelant en fait vraiment ce que la personne est censée faire pour pas que cette personne croit que... Voilà. Mais je dirais que pour ce cas de figure, ouais, c'est important quand même.
Ouais, ok. Et puis pour des personnes qui aimeraient marcher dans vos pas, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Est-ce que, voilà, pourquoi pas, elles pourraient vous solliciter? Est-ce que, voilà, pourquoi pas, un jour, vous mettriez ce podcast, ça peut être un des outils, mais à disposition de personnes qui souhaiteraient justement vivre un peu cette aventure-là et s'y préparer.
Déjà, il faut se lancer. Il faut peut-être pas toujours écouter ce que les autres, les personnes proches nous disent. Et souvent, il y a beaucoup de peur à ce niveau-là. Voilà, et c'est juste se lancer, expérimenter, faire à sa sauce un peu le voyage qu'on aimerait réaliser.
Moi, j'ajouterais à cela que, en effet, je pense que c'est important si on a des proches qui sont inquiets de les tenir au courant. Moi, par exemple, mon père m'avait demandé un message le matin, un message le soir. Du coup, juste pour lui dire, pour pas qu'il s'inquiète en fait. Donc ça, ça dépend des relations. Et sinon, pour le trajet en lui-même, ouais, vraiment y aller, oser, toujours garder le sourire, mais quand même être vigilant. Suivre son intuition à 100%, se dire ok, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas, et ça à chaque instant de la journée, se le demander. Et puis c'est vrai que du coup, quand on est en binôme, on peut questionner aussi l'autre. Ah, moi mon intuition, là elle est titillée, je me sens pas forcément hyper à l'aise, toi tu le sens comment? Ah oui, c'est vrai, moi aussi, ou bien ah non, moi pas du tout. Puis il y a un dialogue qui s'installe, et du coup aussi ça m'amène de la sécurité, puis le voyage se passe encore mieux.
Donc être en tandem, être en alerte, sans ne jamais perdre le sens des choses qui nous entourent, et surtout prendre du plaisir et se lancer, c'est un petit peu vos mots-clés.
C'est ça.
Bon, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on complétera cet entretien-là avec d'autres voyages. Vous nous ferez le récit, j'espère. Et en tout cas, bravo
avec
pour plaisir. Ce voyage, et puis à une prochaine.
À une prochaine, merci.
Merci.
Libre Radio doit acquérir des matériels. De toute urgence, soutiens-nous avec la cagnotte solidaire. www.libradio.org. Pour un don ou pour faire passer. Merci d'avance.